Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur et je vais former un nouveau duo ce mois-ci. Je n'ai jamais fait ce duo jusque-là pour les Jeux du Mois, car je suis accompagné de Bartouf. Salut Bartouf.
Salut Pionfesseur.
Alors toi, c'est ton deuxième jeu du mois, puisque tu étais déjà là le mois dernier, je crois.
Et oui, et c'est une chose plutôt rare au final que je sois en jeu du mois, parce que souvent je suis avec les jeux d'il y a 3 ans. Donc là, exceptionnellement, j'avais des jeux récents à portée de main.
Auquel tu as joué. Très bien. Je te propose qu'avant qu'on commence l'émission, on fasse d'abord tous les petits remerciements habituels qu'on a à faire. Donc déjà, on remercie les donateurs et donatrices qui soutiennent ce podcast. Donc on remercie Suveil, Wallring, B1, Gaum, Sam Shakit, Strugarek, Beru, Nico Como, Delot, Ricky, Hurlien, Caucase, Karl Schnaps et Berdou. Merci à vous pour vos dons.
Merci également à notre partenaire La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com.
Super, et toujours avant de commencer l'émission, on va faire un retour sur les commentaires, mais je devrais plutôt dire sur le commentaire, parce qu'il n'y en a eu qu'un. Sur l'émission précédente des Jeux du Mois, donc c'était l'émission sur SETI et The Gang. Donc il y avait Drew qui présentait SETI et c'était toi, Bartouf, qui présentait The Gang, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et donc il y a eu un commentaire, c'était Gerpi, je ne sais pas comment on se prononce ton pseudo, qui disait que effectivement apparemment le QR code de SETI, qui est un QR code qui permet de faire une sorte de génération aléatoire, si j'ai bien compris, pour la configuration de départ. Il disait que ça fonctionnait à peu près correctement et que bon, fallait juste un peu comprendre comment ça fonctionnait et jouer. Lui disait de jouer un peu à Où est Charlie pour comprendre où tu mets chaque élément à quel endroit. Mais sinon, voilà, il a trouvé ça chouette. C'était rapide. Moi, si tu veux, je peux faire un commentaire, Bartouf.
Ouais, vas-y.
Mon avis. SETI, j'y ai pas joué. Mais Drew, il m'a quand même bien hypé sur le délire là de factions aliens qui changent à chaque partie. Je sais pas à quel point ça a de l'impact, mais si vraiment le cœur du jeu tourne autour de ça, ça ne peut être que bon. Mais je pense que ça va pas malheureusement tourner autour que de ça et j'ai un peu peur, tu vois. Moi, dès qu'un jeu de gestion est trop hypé, j'ai un peu peur. T'y as joué, toi?
Non, j'y ai pas joué. Et justement, je lui avais posé la question et il disait oui, ça change des trucs, mais c'est pas... Tu sentais que c'était pas très clivant et que tu vois, il y avait pas une bascule dans le jeu de l'un, enfin tu vois, au moment où on découvrait l'alien, et du coup effectivement moi aussi ça, peut-être que là-dessus j'aurais voulu plus un truc plus radical, mais bon.
Et pour The Gang par contre, là je trouve que c'est un jeu absolument exceptionnel, The Gang. Il y a vraiment un truc de fou qui se passe autour de la table dans la veine des descendants de The Mind et tout, mais tout en ayant sa propre personnalité, je trouve. Donc moi, je trouve ça excellent. C'est encore une nouvelle manière de communiquer, parce que tu vois, les gens, ils comparent à The Mind, mais en fait, dans The Mind, tu communiques par le silence, alors que dans The Gang, tu communiques par le fait de prendre le jeton devant la gueule des autres, comme ça. Tu vois, il y a un truc très... En fait, ça, c'est très physique. C'est une manière de communiquer très physique, contrairement à The Mind, où c'est plus mental, quoi.
Et qui peut être mal vécu, d'ailleurs, par les gens.
Ouais, t'as déjà vu des gens qui ont mal vécu ça?
Ah bah ouais, qui du coup s'écrasent en disant « Ah ok, bah si tu me le prends, t'as certainement raison. » Puis tu vois, ils se sentent un peu agressés, et du coup, ok, je dois avoir une moins bonne main que toi. Alors que objectivement, ils devraient y aller, tu vois, et reprendre. Mais le mouvement est suffisamment, tu vois, fort pour que du coup, je m'écrase un peu alors que je devrais pas.
Tu vois, peut-être que ça veut dire que cette personne dans la vraie vie s'écrase peut-être trop souvent.
Peut-être.
Non, j'en sais rien. Mais tu vois, ça montre, je trouve, des trucs un peu sociaux, quoi. C'est assez intéressant.
Complètement.
Bref, voilà pour les retours sur l'émission précédente. Et je te propose qu'on regarde de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, On va commencer par toi, Bartouf. Toi, tu vas nous parler de Kingdom Legacy et moi, ensuite, je vous parlerai de Flip Seven. Donc, c'est parti pour l'émission et on va commencer par ta partie, Bartouf, où tu vas parler de Kingdom Legacy.
Très bien. Alors, Kingdom Legacy, eh bien, c'est un jeu de Jonathan Frixelius qui est illustré par l'IA Adobe Firefly. Adobe Firefly, du coup, est une IA générative qui prend dans des banques de données, comment on dit, ouvertes au public, enfin, qui ne va pas piquer dans d'autres trucs. Et ensuite, les éditeurs, donc c'est Frix Games. Et c'est localisé par Intrafin Games en France. C'est un jeu pour un joueur, d'une durée moyenne, on va dire, de 6 heures. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent eux, et qui a été imprimé en Pologne. Alors, qu'est-ce que c'est que Kingdom Legacy ? Donc, c'est un jeu de cartes solo. Il fait partie de la famille des jeux de deck building. En effet, nos cartes produisent des ressources qui vont nous permettre d'accéder à des cartes plus fortes, et ce qui a été acheté, joué et défaussé va revenir dans notre main une fois que notre pioche est terminée et qu'on remélange notre défausse et on se refait une pioche. Mais ici, le ressort principal du jeu, ce n'est pas l'ajout de cartes, donc on n'est pas dans un deck building classique où d'ailleurs on va essayer d'épurer nos cartes pour ne garder que les meilleures, mais un peu à la manière de Mystic Veil, le jeu va nous proposer d'améliorer nos cartes.
Ok, ouais.
Par contre, à la différence, là où Kingdom Legacy se démarque de Mystic Veil, c'est que tu ne vas pas crafter tes cartes, mais les améliorer en les manipulant. Les cartes, elles sont divisées en quatre. Il y a deux côtés par face. Donc c'est assez proche. Là, il faut plutôt penser à Palm Island. Voilà, ça ressemble plutôt à ça. Ça va donc changer notre expérience par rapport à Mystic Veil, où on empilait en fait jusqu'à 3 effets sur une même carte. Kingdom Legacy, lui, nous donne lui plutôt à voir les étapes possibles de notre carte de base et le chemin pour y arriver, c'est-à-dire les ressources nécessaires. Mais à la différence de Palm Island, dans Kingdom Legacy, il ne propose pas toujours le même type d'évolution de carte. Soit l'évolution, elle est linéaire, et donc je passe donc d'un état à A, puis à B, puis à C, puis à D. Soit l'évolution, elle propose une bifurcation.
Un arbre.
Un arbre, exactement. Je peux aller soit en B, et ensuite il y aura une évolution en C, soit je peux directement aller à D, et une fois que j'y suis, j'en bouge pas. Et là arrivent les premiers dilemmes. B me propose une ressource simple, mais elle est accessible tout de suite, tandis que D me propose mieux, mais dans longtemps. Du coup, donc tu as ce dilemme-là, effectivement, d'un arbre de technologie et un choix au niveau de la carte, alors qu'habituellement, ça se passe au niveau de la main. Tu choisis d'améliorer cette carte plutôt que celle-ci. Le jeu propose aussi d'autres variations. Tu peux détruire ta carte afin de produire tout de suite des ressources et tu remets ta carte dans une certaine position. Et ou alors, afin d'avoir un bonus, tu décides de... Donc par exemple, toi, tu l'avais amélioré une fois, deux fois, et il te dit, bah retombe tout à zéro, mais du coup, exceptionnellement, tu vas pouvoir prendre toutes ces denrées. Et donc, il faudra que tu refasses tout le chemin pour arriver à la position finale que tu n'as pas... que tu as choisi de ne pas accéder. Et enfin, et là, c'est le mieux, j'ai envie de dire, tu détruis ta carte afin de la remplacer par une autre qui t'est complètement inconnue. Et donc, dans ce dernier cas, ça change complètement la dynamique de notre système de choix, parce que jusque-là, on était dans un système fermé. Ok, je faisais des choix et j'avais un arbre technologique, mais je savais tout. Et là, c'est comme si dans ton arbre technologique, t'avais une branche qui te disait, point d'interrogation, tu vas vers tu sais pas quoi, mais tu peux y aller si tu veux. Et là, ça change complètement ton choix. Effectivement, t'es dans un circuit fermé, tu passes à un circuit ouvert, où il y a de l'inconnu qui rentre, et tu perds une carte en plus, que tu connais, en échange d'une carte inconnue, sans possibilité de revenir en arrière. Et il y a un petit saut dans le vide pour toi, en tant que joueuse ou joueur, qui vient contredire tout le contrôle que le jeu avait mis en place avant. Vu que tu connaissais toutes tes cartes, en plus pendant le jeu tu peux retourner et voir tous les chemins possibles, Et là, tu ne l'as plus.
C'est un petit truc que tu as souvent, tu sais, dans les jeux à rivière, tu sais, où genre, tu as le choix parmi trois cartes face visible.
Ouais.
Ou tu peux toujours prendre la carte face cachée, tu sais, de la pioche.
C'est ça.
Tu sais, genre, t'as des espèces de choix connus et un choix inconnu. Mais je pense que peut-être que là, ça, c'est encore pire parce que vu qu'il y a le côté deck building, j'imagine, hein, je sais pas, tu me confirmes ou tu m'infirmes ce que je dis, mais vu qu'il y a le côté deck building, tu dis, ok, c'est quand même un choix à long terme. C'est comme si t'es dans un jeu de rôle et effectivement, quand tu choisis tes compétences, t'as le choix entre une compétence inconnue ou une compétence connue, quoi, tu vois.
C'est un peu ça. Et d'ailleurs, en plus, tu fais un peu le pari quand tu le fais, tu te dis, j'espère que la nouvelle carte va aller un peu dans le même sens que celle que je viens de supprimer pour rester dans la même logique. Parce qu'en fait, dans quelque part dans mon biotope, cette carte-là, elle servait à ça par rapport à ce qu'il y avait. Et si je la fais disparaître, j'espère avoir quelque chose de pas trop lointain. Parce que si ça change complètement, bah, tout mon équilibrage dans mon deck se voit modifié, en fait.
C'est le côté combo, quoi.
Ouais.
T'as peur de péter tes combos.
Ça fait ça. Et du coup, bah, ça crée de la surprise pour les joueurs et les joueuses. Ce qui permet de pas trop ronronner aussi dans ta stratégie. Alors, je parlais de deck building au début, mais Kingdom Legacy, donc au-delà des cartes évolutives, il s'éloigne encore un peu des sentiers balisés du deck building, parce qu'il ajoute à ce deck building une mécanique de stop ou encore. Alors, on a déjà vu ça dans Mystic Veil, dont j'ai déjà parlé, ou dans Living Forest, plus proche de nous, on va dire, dans le temps. Sauf que dans le cas de Kingdom Legacy, c'est un stop ou encore un peu tordu. Je m'explique. Dans Mystic Veil, je peux toujours piocher plus de cartes tant que je ne dépasse pas un certain nombre de symboles corruption. Si la nouvelle carte retournée me fait atteindre le nombre de corruption limite, j'ai perdu mon tour et on est dans un stop ou encore classique. Et donc, paf, c'est fini. Ici, de la même manière, si je n'ai pas ce que je souhaite devant moi, je peux ajouter deux cartes, je peux piocher deux cartes. Et seulement ce qu'il y a, c'est si ça ne me plaît pas, bah je peux le refaire. Je peux piocher deux cartes. Et je peux le faire ça autant de fois que je veux, jusqu'à même vider ma pioche. Donc, tu as une espèce de stop ou encore, sans stop en fait, dans un sens. Seulement, le stop, il est là. Mais il est beaucoup plus vicieux. Et pas tout de suite sensible. Parce que si j'améliore une de mes cartes, je mets dans la défausse toutes les cartes qui sont en jeu, toutes les cartes que j'ai piochées, boum, elles vont toutes dans la défausse. Ok ? Et une fois que ma pioche, elle est terminée, en fait, la manche est terminée. Et les manches, eh ben, il y en a un nombre limité. Donc, on va en faire, que je dise pas de bêtises, tac, tac, il doit y avoir 20 manches, quelque chose dans de cet ordre-là. En tout.
Donc tu perds du temps en fait.
Tu perds du temps, c'est ça en fait. Tu peux toujours te payer tout parce qu'il suffit de piocher, piocher, piocher et voilà, il y a pas de souci. Seulement, le nombre de manches est limité, donc t'as perdu du temps, donc t'as amélioré qu'une seule carte alors que normalement, disons, il t'aurait été mieux d'en améliorer 5. Et là, t'en as amélioré qu'une seule.
C'est comme dans One Deck Dungeon. Le temps est représenté par la pioche, justement. C'est-à-dire que tu meules des cartes. C'est comme
bah logique. Oui. Oui, tu meules.
Tu vires des cartes de la pioche, tu vois. Donc tu meules des cartes, et quand la pioche est vide, bah, bon, dans One Deck Dungeon, c'est tu passes au niveau suivant, mais du coup, la difficulté augmente, en fait, tu vois.
C'est ça.
Et moi, j'ai une question à te poser, du coup, c'est. Donc, t'as envie d'aller piocher des cartes parce que ça te donne. Enfin. Non, je vais le dire dans l'autre sens. T'as pas envie de piocher des cartes parce que ça te coûte du temps.
C'est ça.
Mais du coup, pourquoi j'aurais envie de piocher des cartes? Parce que, ok, ça m'augmente mes choix, mais je pourrais pas, genre, terminer mon tour et hop, je pioche les cartes suivantes.
Eh ben, par exemple, parce que à chaque fois que tu pioches tes 4 cartes, là, t'as tes 4 cartes devant toi, tu te dis, putain, c'est celle-là qu'il faut que j'améliore ce tour-ci. Ça serait bien si, ça y est, je passais enfin au niveau du dessus. Sauf que, avec les 3 autres cartes, ben, j'ai pas les ressources nécessaires.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et
vraiment à la.
Et du coup, tu vois.
La Race for the Galaxy, genre.
C'est ça. Et tu vois en plus la carte du dessus de ta pioche et tu te dis, oh, elle m'offre une sur les deux ressources qui me manquent. Vas-y, ça serait bien le diable okay. Si celle du dessous, elle avait pas la bonne. et du coup, hop, okay, ouais, ouais. Tu pioches, et là, tu... bah, ça tombe bien ou ça tombe mal, quoi.
Oui, vu que les cartes sont recto-verso, tu vois toujours celle du dessus de ta pioche.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il te les fait piocher deux par deux, tu vois, parce que si tu les piochais une par une, ce serait débile, tu vois.
Bah, ça serait, oui, tu saurais toujours dans quel cas t'es. Et en plus, du coup, ouais. Ce qui est terrible, c'est que, vu que tu la vois, il y a un côté, et que t'es en solo et que c'est un stop ou encore, le pouce au crime, en fait, c'est pas les autres joueurs, c'est la pioche, avec la carte visible, où tu te dis, oh, vas-y, elle est là, je pourrais la mettre et du coup en profiter, ouais. Ou la prendre pour justement l'améliorer elle, plutôt que les trucs un peu pourris que j'ai devant moi. Donc voilà, le jeu te pousse comme ça à avoir envie de piocher, et en même temps, tu sais que c'est pas une bonne chose. Tu voudrais pas jouer voilà les cartes parce que ça accélère la fin de partie, mais en même temps t'es bien obligé de jouer des cartes pour améliorer ton deck. Et du coup tu te trouves aussi dans une situation un peu inversée par rapport au deck building. Dans le deck building t'as ta main, et ben j'ai par exemple 5 ors à Dominion, et ben je regarde ce que je peux m'acheter à 5 ou moins. Voilà, si j'ai 5 dans ma main ce tour-ci, j'ai ça. Et du coup, tu peux juste râler en faisant « Oh là là, j'ai pas eu de chance, du coup ça tombe mal, mon jeu il sort à l'envers. » Là, tu peux pas dire ça, parce qu'en fait, tu peux te dire « Ah, j'ai pas suffisamment de ressources, mais ça ne dépend que de moi de me dire « Bah, je vais en prendre un peu plus pour prendre améliorer cette carte-là qui me fait vraiment envie. » Mais encore une fois...
Tu sais juste pas combien de temps ça va te coûter, quoi.
C'est ça. Pendant combien de temps, combien de fois tu vas piocher pour avoir la bonne ressource qui va avec. Et en plus, le pire, c'est que des fois, quand tu pioches, du coup, il y a un autre bâtiment qui arrive et tu te dis « Ah, mais je préférerais plutôt améliorer lui. » Mais, ah, enfin bon, voilà. On se retrouve dans cette situation-là. Donc, l'autre particularité de ce deck building, c'est que contrairement aux classiques du genre où on choisit ce qu'on ajoute à son deck... Et contrairement aussi à Mystic Veil, qui donne aux joueurs un nombre fixe de cartes à crafter, ici, on choisit les cartes qu'on améliore, mais on ne choisit pas ce qui s'ajoute à notre deck. Parce que il y a une règle supplémentaire. Donc, je vous ai dit, il y a un certain nombre de manches et elles sont limitées. Et en fait, elles sont limitées d'une autre manière. C'est que au début de chaque manche, tu prends deux cartes dont l'ordre a été prédéfini dans la boîte par l'auteur. Et elles s'ajoutent à ta pioche. Et là...
Ouais, c'est le côté Legacy.
C'est le côté Legacy, mais c'est le côté Legacy aussi avec un... Moi, je reprendrai bien le terme que vous aviez employé avec Cyrus sur l'effet de marche forcée. Tu voudrais rester avec ton petit deck de cartes et bouibouiter tranquillement, les améliorer, les machins, et à chaque fois, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Et en plus, la fin s'approche toujours plus. Enfin, tu vois, t'avances, t'es obligé de jouer des cartes, et en même temps, les nouvelles cartes coûtent toujours plus cher pour les construire, donc faut que t'améliores, ou que tu utilises plus de cartes pour pouvoir les payer, et ainsi de suite. Il y a des nouvelles variétés d'effets, et bien sûr, tu as des cartes qui sont des cartes bonus, et des cartes aussi malus, qui vont t'arriver dans la tronche et qu'il va falloir gérer.
En fait, c'est un jeu où... De deck building, donc généralement le deck building il y a de la combo, mais là genre les combos sont forcés à un moment, tu vois.
C'est ça, il t'arrive et tu...
C'est le jeu qui te dit quoi jouer.
Donc du coup t'as le stop ou encore, avec cette marche forcée, avec le deck building, avec le legacy. Par contre le problème, et là ça va être un des points limites du jeu, c'est que le legacy, il est très classique. Alors, il est très classique à la fois dans ce qu'il propose. Les cartes qui arrivent ne sont pas... c'est pas des effets incroyables où tu te dis « Oh là là, ça change tout dans le jeu !» Pas vraiment, pas complètement. Et surtout, il y a un gros problème, c'est donc la destruction et la transformation physique des cartes. C'est le gros point faible du jeu. Et c'est même pire que ça. C'est, je trouve, en totale opposition avec sa finalité. Parce que d'ailleurs, on en a pas parlé, mais c'est quoi le but dans Kingdom Legacy ? C'est que une fois qu'on a fait le nombre de manches prévues, c'est d'avoir le meilleur score. Et là, tu rentres ton score dans un site internet et tu le compares avec les autres à travers le monde. Mais toi, une fois que t'as fini, t'as qu'une envie, c'est de recommencer en te disant « Vas-y !» Je vais faire mieux que ça. Là, j'ai fait des choix qui étaient pas terribles. J'ai pas eu de chance en plus sur machin. Enfin, t'as envie de recommencer en fait.
Ah ouais.
C'est un score attaque. Et le problème, c'est que du coup, t'as un jeu Legacy. T'as détruit des cartes. T'as collé des trucs sur les cartes. Et bah tu sais plus quoi faire en fait. Bah si, le jeu te propose des extensions pour un peu à la manière des Legacy, tu sais, une fois que ton plateau est fini, il te dit tu peux continuer à jouer avec, c'est pas grave, laisse les choses dessus. Alors lui, il propose une autre manière de renouveler le jeu, mais n'empêche que le royaume auquel t'es arrivé à la fin, bah c'est celui avec lequel tu vas continuer à jouer quoi. Tu peux à aucun moment revenir au début et te dire vas-y, on recommence. À moins que tu en rachètes un en fait. Et ce que je trouve d'autant plus bizarre et mal fait du coup sur cette partie Legacy, c'est que le jeu le sait que c'est un score attaque. Parce que au bout de en gros 5 ou 6 manches, t'as une carte qui te dit bon, vous avez bien compris comment ça fonctionne le jeu. Vous pouvez le réinitialiser et recommencer votre partie si vous si du coup vous sentez que vous êtes mal parti et que vous voulez refaire pour faire le meilleur score. Seulement, tu vois. Ça, t'as envie de lui dire, bah ça c'est ce que j'ai envie de faire à la fin, ça en fait. C'est pas au bout de cinq manches. Et le pire, c'est que, alors heureusement, moi je ne gérais, alors je vous renvoie à la chronique dans le dossier rejoué de janvier 2025 qu'on avait fait sur les que j'ai fait sur les Legacy, où je dis, je donnais des trucs et astuces sur comment faire pour ne pas détruire des Legacy machin. Parce que moi, heureusement, j'avais rien détruit et j'avais tout bien fait. Mais en plus, ce petit mot là où ils te disent bon bah c'est bon tu peux recommencer à zéro si tu veux, il se trouvait que moi si j'avais vraiment joué le Legacy j'aurais détruit une carte donc je pouvais pas réinitialiser.
Ah ouais, ok, moi je croyais que le mot arrivait genre après un espèce de tuto et que t'avais rien détruit encore.
Non, et il se trouve que tu pouvais avoir détruit au moment où le mot arrive et t'es là genre bah, mais c'est débile enfin.
C'est débile, oui.
Et donc voilà, c'est le jeu est en fait, tu vois les potentialités, tu vois ce qui peut être super bien. Le seul truc, c'est qu'il faut enlever la partie destructible. Parce que t'es sur un score attaque, et c'est comme si je te disais, ah bah tu fais une partie de flipper, ok, t'es arrivé à tel score, ben c'est fini, le flipper il est cassé, tu peux plus y jouer. Si tu veux, tu peux aller en trouver un autre dans un autre bar, mais celui-là, c'est terminé. Et t'es, bah non, je veux...
Tu me prends par les sentiments, en parlant de flipper.
Mais
bon, remarque, il y a des flippers, c'est un peu comme ça. Hein. Au bout d'un moment, les à force de les bourrer, les gens ils cassent un peu les flippers. Mais oui, c'est juste pour rire hein, que je.
Bah oui, c'est ça. Mais ce que tu veux, tu vois, c'est recommencer à zéro, faire des nouveaux choix, avoir des nouveaux dilemmes. Et si t'as pas utilisé tes astuces habituelles pour contre l'aspect destructible, bah du coup, le jeu, il y a un côté un peu vain, quoi, parce que t'es arrivé à la fin. Tu t'es dit bah j'ai fait au mieux, et donc tu peux te comparer effectivement donc sur leur site, de voir au niveau mondial, mais tu peux pas améliorer ça quoi. C'est fait, c'est ton score, le jeu est fini, merci au revoir. Et c'est un peu, c'est vraiment frustrant.
La question que le peuple se pose, c'est est-ce que t'as réussi à jouer jusqu'au bout sans détruire ton matériel genre.
Ah oui. Ah oui, parce qu'en plus, c'est que dalle. Ils te disent, détruisez une carte, bah tu la mets de côté. En plus, elles sont toutes numérotées, donc tu peux le réinitialiser comme tu veux. La seule chose qui va pas, c'est il y a des cartes sur lesquelles tu dois cocher des choses. Tu vois, tu barres, bah tu mets une feuille de papier calque transparent dans ta sleeve et c'est bon. Et tu dois, des fois, tu colles des stickers, bah tu les colles sur tu vois, la feuille transparente, là. Et puis ensuite, tu redécoupes, tu mets un, comment ça s'appelle, du glue tack, et voilà, on n'en parle plus, et tu peux le refaire pour la fois suivante. Moi, j'ai déjà fait deux fois le tour du jeu, en fait.
Tu peux coller sur tes sleeves aussi.
Tu peux les coller sur tes sleeves, et tu rechangeras par la suite. Voilà.
C'est pas très grave.
Oui, c'est ça. Non, et puis en plus, c'est des stickers, tu vois, tu pourrais inventer n'importe quel, tu fais un petit dessin toi-même sur ta sleeve, et puis on n'en parle plus, enfin.
Oui. T'écris sur une feuille de papier.
T'écris sur une feuille. Voilà. Tout est possible. Mais voilà. Du coup, là, le Legacy est très étrange parce que t'es typiquement dans un jeu de score attaque où t'aimerais avoir essayé d'autres choses, en fait, aussi. Parce que les choix qu'il t'a fait prendre à certains moments, tu te dis, j'aurais voulu voir ce que ça donne si je faisais une autre stratégie. Et justement, en plus, ça reviendrait. Ça deviendrait plus logique dans le jeu de gestion. Tu redeviendrais vraiment sur un truc de tempo où tu te poses la question du À quel moment est le point de bascule? J'arrête de faire des ressources et j'engrange des points de victoire. Donc, à l'aune de toutes les manches que tu dois jouer, tu vois, et qui terminent le jeu. Et ça, tu le ferais plusieurs fois en cherchant le moment où tu te dis « Ah, là, c'est le bon moment. Là, faut partir là-dessus. » Alors, bien sûr, la surprise de « C'est quoi les deux nouvelles cartes qui t'arrivent dans le jeu ?» a un peu disparu. Mais il me semble pas que ça gâche complètement le jeu. En tout cas, dans une logique de score-attaque, okay, ouais. Ça ne le fait pas.
Oui, voilà. C'est le New Game Plus. On sait qu'il est différent, le New Game Plus.
C'est ça. Voilà. Et ben, c'était Kingdom Legacy de Jonathan Frixelius. Si peut-être un mot, eh ben écoutez, c'est par contre c'est bien laid du coup ce que propose l'IA Adobe Firefly. Si vous voulez revoir des applications des années ouais, tu sais, les personnages tout souriants qui sont irréels, tu vois, avec de la lumière sur leur visage, comme on pouvait trouver dans les années 2000-2010, je crois, sur les applications, tu vois, dans un très, très, un peu naturaliste. C'est ça, voilà, c'est très moche. Et ben donc, c'était Kingdom Legacy de Jonathan Frixelius. L'illustration, c'est donc l'IA Adobe Firefly. L'éditeur, c'est Frix Games, c'est localisé par Intrafin, et c'est donc un jeu solo qui dure à peu près 6 heures et qui a été imprimé en Pologne.
Ok, trop bien, bah merci Bartouf. Moi, j'y ai pas joué à Kingdom Legacy, donc j'ai pas d'avis, mais pour le coup, je suis assez curieux en vrai, hein, puisque la partie Legacy, on peut le contourner assez facilement, ce problème, j'ai l'impression, donc je suis quand même assez curieux de la dynamique. Et ça me fait penser aussi à un jeu qui s'appelait Heading Forward. Je pense pas que t'aies joué à ça.
Non, mais je vois ce que c'est comme jeu, ouais.
Qui a aussi ce système de cartes qui s'améliorent, tu sais, en se retournant, en s'inversant là comme ça. Mais où la thématique, moi je l'avais acheté surtout pour la thématique puisque c'était quelqu'un qui se remet d'un accident un peu traumatique, quoi. Et l'idée, c'est, tu vois, de se réapproprier un petit peu, tu vois, c'est beaucoup plus tranche de vie, tu vois, tu te réappropries tes gestes du quotidien, tu vois. Donc c'est pour ça que au début t'es pourri et tu vois, tu améliores ton deck, quoi. Mais je le trouvais pas très intéressant au final par rapport à ces thématiques, alors que tu vois, Kingdom Legacy, j'ai l'impression que ça exploite beaucoup plus, de manière beaucoup plus cool, cette mécanique, tu vois, d'amélioration de cartes, quoi.
Enfin, si, ce qui était cool dans Heading Forward, c'était qu'est-ce qui faisait que c'était la fin pour toi, là? Tu vois, le chrono final, si je me souviens bien, c'était ton assurance qui ne te payait plus pour t'aider au niveau de la rémission. Du coup, là, c'était un sacré propos aux États-Unis et au Canada, je crois, d'ailleurs.
C'est le truc, ouais, très, très américain effectivement, la fin de pas. En fait, le but du jeu, c'est d'aller mieux à un moment donné, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, t'as ton assurance qui te paye ou non selon si tu vas mieux, tu vois. C'est un truc comme ça. Mais moi, c'est pas forcément ça qui m'a le plus marqué, parce que si tu veux, ça, c'est juste thématique. Mm. Moi, mécaniquement, dans Heading Forward, ce qui m'avait le plus marqué, c'est que dans ton paquet, il y a une carte, c'est ton trauma. Tu vois, c'est...
Ouais.
Et en fait, elle est tirée au sort dès le début. Donc, tu sais, c'est parmi toutes les actions que tu fais, t'en pioches une, et je sais pas, par exemple, si c'est, geeker sur l'ordi, tu vois, bah, ça veut dire que c'est là que t'as eu ton trauma, tu vois. Donc après, à toi d'inventer un petit peu comment t'as eu ce trauma-là, tu vois.
D'accord.
Mais... tu sais, je trouve que c'est fort, quoi. Et du coup, à chaque fois que tu vas piocher la carte, ça trigger ton trauma, tu vois. Et du coup, c'est un truc assez mauvais dans le jeu. C'est un peu, tu sais, comme les cartes épidémie dans Pandémie, tu vois. C'est la carte, ouais, que t'as pas envie de piocher.
Mais qui va forcément revenir au quotidien. Ah ouais, c'est vachement cool, ça.
Voilà, qui va forcément revenir dans le quotidien. Enfin, voilà, c'est le seul truc que je trouvais intéressant dans ce jeu-là, quoi. Bref, du coup, là, on a parlé d'un tout autre jeu, mais...
C'est ça.
Mais Kingdom Legacy, ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir des bons choix de tempo, comme tu dis, surtout à faire... avec ce côté stop ou encore de est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou pas. Moi, je peux y retrouver, tu sais, une espèce de Race for the Galaxy là, dans ce que tu me racontes, mais en espérant que ce ne soit pas trop calculatoire, hein, parce que Jonathan Frixelius, c'est pas un des auteurs de Terraforming Mars par hasard?
Ouais, je crois.
Donc moi, j'aime pas trop Terraforming Mars, vous le savez.
Je le
voire
sais
pas du tout. Trop bien. Bon, bah écoute, on va conclure là-dessus sur ta critique, Bartouf.
Merci. Eh bah écoutons maintenant ce que tu as à nous dire sur Flip 7.
Alors donc, je vais effectivement vous parler de Flip Seven, qui est un jeu de Eric Olsen, illustré par O'Neill Mabil, Mabil, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est édité originalement chez The Hop Game, je ne sais pas comment ils prononcent ça non plus. C'est localisé en France chez Catch Up Games. C'est annoncé pour 3 à 99 joueurs ou joueuses. Donc tu vois, là, c'est un peu comme toi avec les jeux de 6 heures. Moi, c'est des jeux qui jouent jusqu'à 99. Tu vois, on a vraiment des configurations un peu rigolotes. C'est annoncé pour 20 minutes et pour 8 ans et plus. J'ai aucune idée de où c'est fabriqué. Et c'est à 13,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Alors, avant de commencer ma petite critique, il va falloir que je fasse un petit peu de contexte et un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire du jeu de Stop ou Encore. Alors, tu sais très bien que le jeu, on va dire, le plus connu, le plus paradigmatique du Stop ou Encore, c'est à la base le Blackjack. Tu sais, un jeu de casino, je vais pas expliquer ce que c'est que le Blackjack, mais tout le monde connaît. Et plus tard, dans les années 90, il y a Rainer Knizia qui a sorti un jeu qui s'appelle Circus Flocati en allemand. Sauf qui puce en français. Je ne sais pas si tu as joué à Circus Flocati.
Non, partout. Mais sauf qui puce, je le vois. Mais c'est tout.
C'est le même jeu. Là.
Oui, oui.
Mais c'est un jeu qui a... pour moi, c'est ce jeu-là qui a fait ça, mais je demande aux grands historiens ludiques de me corriger. Mais il me semble que c'est lui qui a introduit une mécanique où, de Stop ou Encore, où tu sais, on va piocher des cartes et il ne faut pas qu'on pioche deux cartes de la même couleur. Dans Circus Flocati, c'est des couleurs, mais après, il y a plein d'autres jeux qui ont fait ça avec des symboles, avec des chiffres, avec n'importe quoi d'autre. Donc, tu pioches jusqu'à ce que tu aies envie de t'arrêter, mais tu vas te planter si jamais tu pioches deux fois la même couleur. Alors, moi, je vais utiliser le terme planter. C'est l'équivalent de ce que les Anglais utilisent pour bust. Mais il n'y a pas trop de traduction en français. C'est ce moment dans le Stop ou Encore où tu vas trop loin. Tu te plantes, quoi. Et du coup, plus tard, donc cette mécanique, on l'a vu dans plein d'autres jeux de Stop ou Encore. Et plus tard, il y a un jeu qui s'appelle Pairs, P-A-I-R-S, donc les des pairs, quoi, qui a mélangé cette mécanique avec un système de deck de pioche pyramidale. Tu sais, c'est ces pioches où on a un exemplaire de la carte 1, deux exemplaires de la carte 2, trois exemplaires de la carte 3, etc. etc. Donc le nombre d'éléments d'un numéro, c'est le numéro lui-même. Si c'est le chiffre 5, il est présent 5 fois dans le paquet. Et donc, dans Pairs, il y a un jeu où le principe, c'est de piocher comme ça, mais il ne faut jamais que tu révèles deux fois le même chiffre. Donc, si tu as un 5, tu sais qu'il a plus de probabilité d'être pioché que si tu as pioché un 2, tu vois. Donc, ton Stop ou Encore va être un petit peu modulé par rapport à ça. Et ça, je trouve ça plus intéressant en termes de gestion des probabilités. Et donc, voilà, fin du cours d'histoire. Et maintenant, on va parler de Flip Seven, parce qu'en fait, Flip Seven, c'est clairement un descendant de Pairs. Puisqu'il va reprendre cette mécanique de deck pyramidal, on va dire, plus le côté Stop ou Encore, il faut que tu pioches des numéros sans piocher deux fois le même. Alors pour donner un petit peu de contexte, très rapidement aussi, c'est que l'auteur Eric Olsen, moi de ce que j'ai regardé de ses autres jeux, c'est un auteur absolument inintéressant, il a pas fait de jeu incroyable, mais il fait justement que repomper des concepts déjà existants. Moi j'ai remarqué, c'est peut-être ça sa patte, c'est de reprendre des trucs qui existent déjà et d'essayer d'un peu les améliorer. Et je pense qu'il a un peu toujours raté en fait, et que Flip Seven c'est peut-être son premier jeu où il réussit à faire ça, à apporter vraiment une touche dans quelque chose de déjà existant. Donc comme je disais, mécaniquement, Flip Seven c'est un Stop ou Encore à la manière de Pairs. Donc on pioche des cartes sans piocher jusqu'à ce qu'on en ait marre, mais on n'a pas envie de piocher deux fois le même chiffre, sinon on dépasse, enfin on bust. Et donc, il y a une petite astuce déjà toute simple et que je trouve très élégante, c'est que quand on s'arrête, on va marquer autant de points que les valeurs qu'on a devant soi. Donc si je piochais un 10 plus un 12, ben, je vais mettre 22 points. Et ça, je trouve que c'est très élégant en termes d'équilibrage, parce que effectivement le 12, c'est une carte très dangereuse, puisque bah, y a plus de chances de le piocher, vu qu'il y en a 11 autres exemplaires dans le paquet, mais en même temps, c'est la carte qui fait le plus de points. C'est tout bête, mais en fait, on se demande presque pourquoi dans Pairs, c'était pas comme ça, quoi. Donc, c'est très... Je sais pas, il y a une forme de pureté dans cette mécanique que moi, je trouve très, très belle. Voilà. Après, ça va aussi créer un truc qui est, je trouve, de l'ordre de l'intuition. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à calculer à chaque tour le nombre de cartes qui nous font buster dans le paquet. Tu vois, tu dis pas, ok, j'ai pioché un 12 plus un 10, il reste donc 20 cartes dans le paquet qui me font bust, le paquet fait encore telle taille, etc. Bon, évidemment, tu t'amuses pas à calculer ça. Mais en fait, j'ai vu sur Board Game Geek que en fait, ça correspondait à peu près au pourcentage. C'est-à-dire que quand tu pioches un 11, bah, t'as à peu près 11% de chance de bust, de te planter, tu vois. Et donc, si t'as un 11 plus un 8, t'as à peu près 19% de chance de te planter. C'est pas tout à fait correct, tu vois, ça dépend effectivement de, bah, des cartes qu'il y a chez les autres et tout ça. Mais je trouve que ça crée cette espèce d'intuition et t'arrives à sentir presque ce moment où c'est trop. En fait, je pense que n'importe qui arrive à le sentir. Et ça, je trouve ça déjà assez cool, tu vois. C'est vrai. Moi, je préfère toujours dans les jeux quand c'est de l'ordre de l'intuition plutôt que de l'ordre du calcul. J'ajoute que ça crée aussi un peu de subtilité, puisque effectivement, on peut aussi s'amuser à mémoriser un petit peu les valeurs. Alors, généralement, tu t'amuses pas à mémoriser ce qu'il y a dans la défausse, tu sais, genre toutes les valeurs qui sont déjà passées, mais tu vas juste regarder autour de la table combien il y a de cartes qui sont actuellement tombées dans la manche, quoi.
Oui. Oui, puis même t'as un effet aussi des fois, c'est ça devient, il y a un gag autour du fait que tout le monde s'est chopé deux fois des 12 le tour d'avant. Et donc, du coup, au nouveau tour, tu te dis, ah bah, si j'en ai un, il y a quand même beaucoup moins de chances d'en avoir. Enfin, effectivement, encore une fois, de manière intuitive, tu sens que les probabilités ont bougé et qu'elles sont plus ou moins en ta faveur.
C'est ça. Tu vois, j'aime bien l'idée de dire tu sens les probabilités. Ça, j'adore ce sentiment. Et donc, si je dis regardez autour de la table, c'est parce que justement, il y a un truc de mise en scène que je trouve aussi assez incroyable dans Flip 7. Alors, il le reprend de Pairs. C'est que en fait on fait le stop ou encore tous en même temps. Ce qui est assez rare, parce que généralement les stop ou encore, tu sais, on regarde une personne en train de le faire. Je sais pas si je prends le jeu paradigmatique, pour moi c'est Can't Stop, tu vois. La personne elle va lancer ses dés, on la regarde, alors nous on va être là à le pousser au crime, comme tu disais, comme Cyrus aime bien dire aussi. Mais là, le fait qu'on le fasse tous en même temps, ça fait, comme j'ai dit, qu'on pouvait observer les valeurs chez les autres pour jouer sur les probabilités. Mais aussi, ça crée une espèce de rythme de jeu que je trouve ultra rapide. Et en fait, la mise en scène qui est proposée dans les règles, et que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il y a un joueur qui va être l'espèce de dealer, tu sais, de croupier, quoi, qui prend le paquet dans sa main et qui distribue les cartes aux autres, quoi. Donc là, on retrouve le côté historique, tu vois, du blackjack, où t'as une personne qui est le croupier, sauf que là, il joue aussi, quoi. Et ça accélère énormément le truc, quoi. C'est ça que je remarque vraiment qui distingue Flip 7 de la plupart des autres stop ou encore, c'est son rythme, en fait, tu vois. Et ce côté un peu casino, quoi. Je sais pas toi, mais en fait, des fois, ça m'est arrivé que je dise « vas-y, encore un peu trop vite », juste à cause de ce rythme, tu vois. La mise en scène t'incite à prendre tes décisions ultra rapidement. Et du coup, ça accentue aussi ce côté, t'as pas envie de calculer, tu vois. C'était vraiment que dans du feeling pur, tu vois. Donc voilà, ça je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça crée un côté un petit peu jeu d'arcade. C'est justement mon point suivant. Alors j'avais fait une chronique sur ce que j'appelle jeu d'arcade, donc je vais vous inviter à aller la réécouter si vous voulez, mais ça coche à peu près toutes les cases que j'avais évoqué dans cette chronique. Donc je vais le redire un petit peu rapidement. Déjà, c'est un jeu qui n'a pas de thématique. Donc tu vois, t'es dans du jeu pur, entre guillemets. Tu vois, il cherche pas à se draper d'une histoire ou de je sais pas quoi. Non, non, c'est juste des chiffres. Voilà, des chiffres, des probabilités. Ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'il y a des situations exceptionnelles un peu rares. Le jeu s'appelle Flip 7 parce que, en fait, si jamais tu arrives à révéler 7 cartes devant toi différentes, ce qui est difficile parce qu'il faut que t'aies pas bust entre temps, faut que tu ne sois pas planté entre temps, tu vas gagner un bonus spécial. Voilà, tu as le super bonus et puis les autres doivent s'arrêter, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une situation exceptionnelle qui a un nom dans le jeu, tu vois, Flip 7. Un petit peu comme dans, tu vois, les jeux traditionnels où, je sais pas, par exemple, tu joues à la belote. Ah, si tu fais tous les plis, on appelle ça faire capot, tu vois. Le fait de nommer le truc, je trouve que ça lui donne une importance. Et en fait, ça lui donne une importance même quand il n'arrive pas. Tu vois, tu sais, quand t'es genre à 6 cartes, tu dis, t'es à une carte de faire Flip 7, tu vois. Tu sais, il y a vraiment un truc comme ça qui se passe de la potentialité du truc qui peut arriver, quoi. Et surtout, l'autre truc qui donne vraiment ce côté jeu d'arcade pour moi, c'est qu'il y a des cartes spéciales. Il y a des effets, il y a des trucs bizarres, quoi, tu vois, qui vont en fait créer cette forme un petit peu d'addiction, je trouve. Parce que, tu sais, à chaque fois, tu te dis, ah, peut-être que la prochaine carte, c'est une carte spéciale et il va se passer un petit changement, tu vois. Ça fait que le rythme du jeu est très rapide et en plus, il se passe des trucs qui changent de temps en temps. Donc, c'est vraiment l'inverse d'un jeu monocorde. Comme par exemple le Blackjack, où je trouve que le Blackjack, à un moment donné, tu joues presque automatiquement, tu vois. Alors que là, il y a des rebondissements, quoi. Ça, c'est un truc qu'il a repris de Circus Flocati, puisque dans Circus Flocati aussi, il y a des cartes spéciales, mais elles ont beaucoup moins de personnalité que dans Flip 7. Parce que dans Circus Flocati, c'est toujours je vole une carte à quelqu'un, ou alors je donne une carte à quelqu'un. Enfin, tu sais, c'est des trucs un peu nuls comme ça. Là, c'est tout simple, mais en fait, il y a déjà des effets de cartes. Donc, il y a des cartes qui ont des capacités spéciales, je vais y revenir. Mais il y a aussi des cartes qui, par exemple, font des bonus de points. C'est-à-dire, c'est un bonus de je sais pas, 5 points bonus, mais qui compte pas comme le chiffre 5. Donc, ça veut dire que ça te modifie un petit peu ta réflexion de probabilité, parce que tu dis, ah ouais, ok, si je ne buste pas, si je ne me plante pas, j'ai quand même un bonus de 5 points. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que même au sein de ces bonus, t'as des bonus qui vont de 2 à 10, et puis t'as un bonus, c'est un x2. Donc, au sein des cartes spéciales, t'as une carte qui est encore plus spéciale, c'est le x2, tu vois. Tu vois, c'est là qu'on voit qu'ils ont voulu mettre, enfin, ou l'auteur en tout cas a voulu mettre beaucoup de personnalité dans son jeu. Même au sein des cartes normales, donc les chiffres qui vont normalement de 1 à 12, eh ben, il y a un 0, tu vois. Il y a encore une carte spéciale parmi les normales. Alors le 0, on pourrait se dire qu'il sert à rien parce qu'il fait 0 points. Évidemment, il sert surtout à faire le flip 7, c'est-à-dire avoir 7 cartes différentes devant soi. Donc il a énormément de personnalité, Alors il se trouve pas en 0 exemplaire, il se trouve en 1 exemplaire, évidemment. Donc voilà, donc tout ça, ça va créer plein de petites situations uniques, je trouve, autour de la table, avec finalement pas grand-chose. Comme dit, finalement, il y a que des chiffres, il y a quelques cartes spéciales, et puis boum, ça fait un jeu où il se passe plein de trucs différents, quoi. Donc, malgré le fait que j'ai dit 3 cartes avec des effets spéciaux différents, il y a quand même... C'est clairement le genre de jeu, en fait, où on se demande comment interagissent les pouvoirs entre eux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment parfois aller regarder dans les règles. Ok, il y a tel pouvoir qui a été pioché versus tel autre pouvoir. Donc, tu dois aller vérifier. Mais moi, je trouve ça presque cool, en fait, parce que ça crée une situation un peu unique, mais pas au point d'être chiant comme dans un jeu à l'américaine où ça arrive à chaque action, presque. Tu sais, genre dans les dungeon crawlers de mort, où tu te dis « Ah, j'ai pioché une épée. Ah, elle fait ça. » Ah merde, comment ça interagit avec mon bouclier, parce que j'ai mon bouclier qui fait ça. Tu vois, tu sais, c'est des trucs comme ça, trop chiant dans les jeux à l'américaine, où tu regardes tout le temps les règles. Là, il n'y a pas beaucoup de cas possibles, tu vois, ça arrive assez rarement, et quand ça arrive, c'est même plutôt rigolo, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou, on n'a jamais vécu ça, quoi. C'est plus, je dirais, proche des jeux à la japonaise. Tu sais, les jeux à metagame très serrés, genre Love Letter et tout ça, où tu peux te demander comment les cartes, elles interagissent entre elles, même si... Je trouve que là, c'est vraiment plus le côté jeu d'arcade qui est appuyé dans Flip 7 que le côté metagame qu'il y aurait dans un jeu à la japonaise. Il y a une petite distinction entre les deux. Et donc, voilà. C'est vraiment, encore une fois, le même sentiment qu'on trouve dans les jeux de cartes traditionnels. Tu sais, genre, on te distribue des cartes, tu regardes ta main et tu dis « Oh, est-ce que j'ai un truc exceptionnel ? Est-ce que j'ai une main qui peut faire un truc de fou ?» Bah là, c'est pareil, sauf que tu sais, on te révèle les cartes au fur et à mesure et c'est « Oh !» Il se passe des trucs de fou. Ah, ok, là, j'ai la situation qui peut potentiellement me faire un flip 7. Là, j'ai pioché le x2 en même temps que le bonus, là, qui va me faire une main de fou. Ah, là, toi, t'as pioché le 12, alors qu'en même temps, t'as pioché telle autre carte qui t'incite à continuer. Tu vois. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. N'hésite pas à m'interrompre un bar tout.
Oui, oui. Non, mais je t'écoute et je suis en train de me dire, bah oui, c'est exactement ça. Que moi j'ai vécu dans mes parties de Flip 7.
Parce que toi tu y as joué, hein, d'ailleurs, on a oublié de le dire.
Oui, j'y ai joué aussi. Et c'est effectivement le. Nous, c'était aussi comment les effets entre eux. Je sais plus, il y a le stop, tu sais, et il y en avait un qui avait le encore une fois. Et du coup, qu'est-ce que ça faisait si je stoppais quelqu'un qui avait une seconde chance. Et voilà, c'est ce genre de truc, effectivement.
Voilà, ce genre de truc, tout à fait. Et du coup, bah, le dernier point important du jeu, parce que là, j'ai dit, bah, on fait chacun notre stop ou encore et tout ça, on pourrait se dire, du coup, c'est un jeu, on reste un peu chacun dans son coin. C'est déjà intéressant, hein, juste à observer tout ce qui se passe autour de la table, comme dit, tous les petits effets jeux d'arcade comme ça qui se passent. Mais il y a un autre truc important, c'est que c'est une course, ce jeu, dans le sens où c'est pas on va jouer genre un nombre de tours fixe, puis on compte les points, mais c'est le premier à X points qui gagne. C'est ça ce que j'appellerais des jeux de course. En l'occurrence, c'est 200 points. Et ici, ça va moduler du coup la prise de risque des gens en fonction de leur position dans cette course. Hein, évidemment, plus on est en arrière, plus on est censé prendre des risques. Plus on est en avant, moins on est censé prendre des risques. Mais c'est pas si calculatoire que ça, parce que comme je le disais, il y a les capacités spéciales qui vont foutre un joyeux bordel au milieu de cette course. Donc, tu sais, si je devais faire la métaphore avec une vraie course, c'est plus proche de Mario Kart que Gran Turismo, tu vois.
Oui.
C'est plus, il va y avoir du catch-up de partout, des trucs où on se tape et tout. Parce qu'en fait, parmi les trois capacités spéciales, c'est maintenant que j'y viens, les cartes à capacité spéciale, il y en a deux qui sont du take that. C'est-à-dire, tu cibles une personne directement et tu vas lui infliger un malus. C'est d'ailleurs les deux qui sont les plus intéressantes, en fait. Il y en a une, en gros, c'est tu forces quelqu'un à s'arrêter. Et t'en as une autre, c'est tu forces quelqu'un à piocher trois cartes. Donc tu augmentes la potentialité qu'il se plante, qu'il buste. Donc ça, j'ai trouvé ça cool, parce que ça, comme dit, ça crée encore des rebondissements au sein d'un jeu qui en a déjà pas mal. Mais surtout, bah, ça permet de faire une espèce de catch-up naturel, donc de rééquilibrage naturel. Moi, je trouve que c'est toujours plus élégant quand c'est les joueurs qui doivent rééquilibrer plutôt que quand c'est le jeu qui le fait d'une manière un peu violente. Ça, tu sais, ça crée des petits ouin-ouin autour de la table,
c'est
toujours sympa. Même si je regrette que ça soit que le troisième pouvoir soit, je trouve, absolument inintéressant. C'est-à-dire que le troisième pouvoir, c'est une sorte de seconde. Ils appellent ça la seconde chance. Donc l'idée, c'est que la prochaine fois que tu devrais bust, bah tu bustes pas, mais tu l'as que pour cette manche. Donc du coup, bah forcément, tu continues de piocher jusqu'à ce que tu claques ta seconde chance, en fait. Donc ça en fait, c'est nul. Ça rend ton jeu automatique, tu vois. Ça t'enlève des choix. C'est complètement débile. En fait, le seul truc marrant avec ça, c'est que ça augmente tes chances de faire un flip 7. Donc ça, cool, c'est un truc un peu rare qui arrive plus souvent. L'autre truc rigolo, je sais pas si tu le sais, tiens, tu sais ce qui se passe quand on pioche une deuxième seconde chance ?
Non, mais attends, je suis en train de penser. Du coup, t'as deux fois la même carte, du coup, elle s'annule elle-même ?
Non, tu dois la donner à quelqu'un d'autre.
Oh !
Ça, c'est rigolo, tu vois.
Ah, ça, oui, là, ça devient intéressant, là.
On est sur une espèce de texte inversé, quoi. En vrai, il existe des situations où tu peux bust sur une seconde chance. Est-ce que tu le savais, ça ?
Vas-y, dis-moi lesquelles.
Tu vois, c'est drôle, hein. C'est vraiment le côté jeu d'arcade. Encore, c'est, tu savais qu'il existe des trucs un peu cachés dans le jeu, dans les dynamiques.
Il y a une faille.
En fait, si tout le monde s'arrête sauf toi, et que tu pioches une carte qui force quelqu'un à piocher trois cartes, tu es obligé de te cibler toi, parce que tu dois cibler quelqu'un qui est encore en jeu. Et donc si tu pioches trois cartes, d'un coup, bah, peut-être que ta seconde chance va partir et tu vois, la deuxième carte ou la troisième te bute. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
C'est vraiment le seul cas où ça peut arriver. Donc c'est tellement rare qu'en vrai, tu ne le prends pas en compte, tu vois.
Oui.
Mais à la limite, ce truc-là est un peu rigolo, tu vois.
Mais tu vois, ce que je trouve, c'est que ça tient sur ta carte, qui est la meilleure selon moi, qui est celle... Faites piocher trois fois à quelqu'un, parce que celle-là, en fait, elle est pile ou face. Parce que normalement, c'est fait pour faire chuter quelqu'un, et donc, c'est effectivement un truc take that. Mais des fois, en fait, tu fais piocher trois fois à quelqu'un, et il se trouve qu'il n'aurait pas osé aller jusque-là, mais du coup, tu lui offres presque le flip 7, et tu te dis « Non, c'est lui qui est en tête, je devais le faire chuter, et en fait, je lui fais des points en plus. » Et le mec, il est juste, ah bah c'est bien, j'ai rien fait, j'ai pas pris de risque, c'est vous qui me l'avez forcé, et c'est bon pour moi.
Et là, c'est une situation exceptionnelle dans la situation exceptionnelle qui est déjà de piocher une carte spéciale, tu vois.
Ouais.
C'est trop bien, j'aime beaucoup ces trucs-là. Mais bon, tout ça pour dire que tu vois, la seconde chance, je trouve que c'est vraiment pour moi une erreur de game design. Ça aurait été beaucoup mieux de dire, bah tu l'as, tu l'utilises quand tu veux en fait, tu vois. Et donc, comme ça... C'est-à-dire que tu peux la garder d'une manche à l'autre, tu vois. Ce qui fait que du coup, tu pourrais te dire « Ah, j'ai peut-être pas envie de continuer parce que j'ai envie de garder ma seconde chance pour plus tard, tu vois. » Voilà, petite variante pionfesseur, je vous invite à le faire. Un truc comme ça, tu vois. Après, on peut imaginer d'autres trucs. Hein. On peut dire « Tu l'utilises pendant cette manche. » Mais si jamais tu l'utilises pas, elle te vaut 5 points. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Moi, j'aurais aimé qu'en fait, j'ai toujours ce choix de stop ou encore à chaque tour. Et moi, le problème, c'est que cette carte m'enlève le stop ou encore et je passe en mode encore automatique. Dans le même ordre d'idée, histoire de donner un dernier point négatif, je trouve que la fin de partie est chiante, un peu. Ça arrive souvent que ça devienne très calculatoire. En fait, on regarde juste les scores de tout le monde, on doit calculer tout ce qu'il y a autour de la table et on se dit, ok, je suis en arrière, donc tu vas retrouver ce côté de non-choix, de il faut forcément que tu fasses encore, sinon t'as juste perdu, en fait, tu vois. Voilà, ça c'est un truc un petit peu dommage dans le jeu, quoi, et qui pour le coup ne va pas être facile à corriger avec une variante. Donc pour moi, c'est le gros défaut du jeu. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter un truc, et sinon je fais ma conclusion.
Moi, ce que je... Du coup, c'est un truc perso, mais qui est assez... C'est que le jeu te permet de savoir aussi s'il faut que tu rentres ou pas dans un casino. C'est-à-dire que moi, je peux te le dire, mon meilleur score à ce jeu, c'est 35. Parce que en fait, je suis un mec qui sait pas s'arrêter. Je suis toujours là genre, oh allez, encore une, ça vaut le coup, allez, juste une et ça va passer, après je m'arrête, c'est promis, et bam, à chaque fois je me fais rétamer. Donc la plupart du temps, je fais zéro, et tu vois, c'est vraiment quand je prends sur moi que tout à coup je fais, bon, je m'arrête, et je fais un peu de points. Mais sinon, je suis toujours le mec qui est derrière parce qu'il a pris trop de risques et en espérant faire le flip 7. Alors ça m'appâte un truc de dingue, quoi. C'est... Oh, j'en rêve. À chaque nouvelle carte, je me dis, mais non, c'est bon, ça passe. Et jamais ça passe.
Est-ce que t'es mauvais à tous les jeux de stop ou encore, du coup, ou pas?
Je sais pas, mais je crois que celui-là, ça m'appâte trop, tu vois. Je me dis, oh là là... Non, parce qu'habituellement, je suis plus... Ouais. Justement, en fait, je crois que la vitesse dont tu parlais sur la table... me pousse à continuer, alors qu'habituellement, justement, sur des stops ou encore, je pense à Cubitos ou à d'autres, je suis plutôt frileux et je gagne pas trop parce que, justement, j'ai toujours peur de trébucher et je me dis, ah non, allez, là, ça serait trop tenté, trop pousser le diable. Tirer le quai de diable par la queue. Mais dans celui-là, tu vois, dans l'effet collectif, je suis là genre, allez, une petite carte de plus, c'est rien. Et bim, à chaque fois.
Ouais, que tu vois... Dans un jeu comme Pairs, pour moi Pairs c'est vraiment l'inverse total parce que le jeu est hyper lent, je trouve, tu vois. C'est un truc que je lui reprochais déjà avant que Flip 7 existe, tu vois. C'est que en fait, tu sais, on distribue les cartes et tout, puis en fait dans Pairs, quand il y en a un qui bust, ça s'arrête pour tout le monde, tu vois. Donc il faut qu'on enlève les cartes de tout le monde, on en redistribue une à tout le monde pour repartir pour la manche suivante. C'est super chiant, tu vois.
Ouais.
Alors que Flip 7, c'est juste on jarre tout et on fait tourner le paquet, puis c'est reparti, tu vois. Et puis il y a ce côté un peu asynchrone de, il y en a qui ont terminé, tu sais, qui ont bust ou qui s'arrêtent pendant que les autres continuent, tu vois. Mais du coup, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont dans le stop ou encore, tu vois.
Ouais.
Donc, tu vois, c'est très très dynamique, quoi. Ok, bah écoute, je vais faire ma petite conclusion. À moins que t'aies encore d'autres trucs à dire.
Non.
Let's go. Donc, pour moi, Flip 7, du coup, bah, comme je viens de le dire, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'était Pairs. C'est-à-dire qu'il a réussi à ajouter la bonne dose de jeu d'arcade pour créer un jeu qui va te balancer, genre, régulièrement des petites explosions, soit de joie, soit de rage, tu vois. Et les petits trucs spéciaux qui sont caché dans le paquet, ça va te créer plein de petites situations, des trucs un peu rares qui vont te provoquer, tu vois, le même émerveillement que t'as quand tu ouvres des boosters de jeux de cartes à collectionner et tu sais que tu trouves la carte rare, tu vois. Ça se marie particulièrement bien, je trouve, avec le stop ou encore, parce que c'est un genre qui te met constamment au bord d'un précipice. Hein, tu sais, c'est dans le nom même de la mécanique. Tu sens bien que soit tu peux gagner beaucoup, soit tu peux tout perdre d'un coup. C'est pour ça que c'est une mécanique qui est très utilisée, par exemple, dans les jeux télévisés. Ça a un côté spectaculaire, tu vois. Soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. Et donc, mélangé à de l'arcade, je trouve que ça va se comboter dans le spectaculaire. Et vu que la mise en scène fait en sorte qu'on regarde son propre spectacle, mais en même temps celui des autres, bah, du coup, c'est clairement un jeu où il se passe quelque chose autour de la table. Alors, je dirais pas que c'est encore parfait. Y a des moments où tu vois les choix deviennent un peu automatiques. D'ailleurs, si je devais être encore plus méchant, je dirais que même l'espace de choix général est pas incroyable. Tu vois, c'est juste stop ou encore. Et parfois, c'est un peu évident. Tu vois, genre, bah oui, la première carte de la manche, tu la prends. Tu vois. Enfin, donc voilà, c'est pas non plus le truc le plus fou du monde. Mais je pense que il est déjà vraiment très cool. même si, du coup, bah, comme je disais, il aurait pu être plus intelligent sur ses effets pour créer plus de situations, justement, ou même dès le début, faire stop ou encore, c'est déjà une question, quoi, même dès la première carte. Et, mais voilà, mais moi, ce que je me dis en regardant l'auteur, ses créations, et le fait que ça ressemble quand même beaucoup à Perz, moi, ça me donne l'impression que c'est un jeu qui est presque réussi par erreur, tu vois. C'est pas la première fois que je dis ça d'un jeu, mais moi, il y a plusieurs jeux comme ça, j'ai ce sentiment-là, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont juste repompé un truc, ils ont mis 2-3 trucs, mais il s'avérait que c'était la bonne chose à faire. Mais en fait, moi, je dis peu importe, au final, ça reste globalement un bon jeu, et donc moi, je suis content d'y jouer. Voilà.
Bah oui.
C'est ça l'essentiel, hein.
Ah oui, oui.
Et ben, voilà. Du coup, je vais refaire la fiche signalétique. Donc, Flip Seven, c'est un jeu de Erik Olsen, illustré par O'Neill Mabil, édité par The Hop Games, localisé par Catch Up Games. C'est annoncé pour 3 à 99 joueurs ou joueuses. Alors maintenant, vous savez que 99, c'est un peu une connerie et qu'en fait, ils disent qu'au-delà de 12, il faut genre 2 boîtes. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ça se joue en à peu près 20 minutes et c'est annoncé pour 8 ans et plus. Ça se trouve à 13,90€ à la Caverne du Gobelin. Ben voilà.
Ben voilà.
On va pouvoir conclure, Bartouf.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeux.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur X, sur Facebook, Mastodon, Blue Sky et surtout, parlez de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, jouez bien, bien.